Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC jusqu'à 16h.
Alors la langue et tout, la base, comment je fais? Ça coule pas sur les côtés? Ça fait pas découler?
C'est dégueulasse.
Tu sais comment on fait les bébés?
Oui, on met la graine dans la foufounette.
Non, faut de la tendresse. Faut de l'amour, de la tendresse, des caresses.
Aujourd'hui on est 9 milliards, on fait pas ça pour la reproduction quoi. Donc bon, faut un minimum que ça soit sympa quoi.
Roselyne Bachelot prend les commandes.
Tourne pas toujours ta langue dans le même sens.
Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Chacun son style de roulage de pelle. Heureusement que tout le monde n'a pas la même technique, chacun sa technique.
De 15h à 16h, dans 100%
Bachelot. 100%
Bachelot,
bonjour Rémi, t'en apprends hein, sur RMC mon Rémi.
Je découvre plein de choses.
Tu nous donneras tes techniques parce que aujourd'hui nous parlons d'éducation sexuelle. On pourrait penser que nos enfants et nos ados savent tout sur la sexualité quand on apprend que 68% des enfants de 15-17 ans ont déjà vu un film pornographique. Pourtant, d'autres chiffres disent le contraire, comme les 18 000 grossesses de mineurs chaque année, dont 70% se terminent par une IVG. Et quand on interroge nos jeunes, leurs réponses nous sidèrent, tant elles révèlent leur ignorance, leurs idées préconçues sur la sexualité, les maladies sexuellement transmissibles ou la contraception. Et les parents ne sont pas les mieux outillés psychologiquement et scientifiquement pour donner les bonnes infos. C'est donc l'école qui est une source adaptée, avec d'autres, pour éduquer à la sexualité. Le problème est qu'elle assume mal ce rôle, faute de moyens et de personnel formé. Alors, qu'attendez-vous de l'école? Racontez-nous vos difficultés, les vôtres peut-être d'ailleurs, ou celles de vos enfants. Et puis, vos attentes. On vous attend au 3216. Il y a déjà des appels parce que c'est un sujet qui passionne. Donc, je vous attends au 3216 sur Twitter, Bachelot_RMC. Et puis, vous pouvez également m'écrire par mail sur rmc.fr.
RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot.
L'éducation sexuelle reste marginale dans l'enseignement. C'est pas moi qui le dis, c'est la conclusion d'un récent rapport publié par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'éducation à la sexualité pas suffisamment dispensée dans les écoles, dans les collèges, les lycées. D'après cette étude, sur 3000 établissements publics et privés interrogés entre 2014 et 2015, seuls 10 à 21% des élèves avaient bénéficié des 3 séances d'éducation sexuelle pourtant prévues depuis une loi de 2001 par l'éducation nationale. Ignorance donc, à commencer par celle de son corps ou de celui de l'autre, ce qui favorise, tu l'as dit Roselyne, la propagation du sexisme et aussi des conduites à risque. Avec le développement d'Internet, l'apprentissage à la sexualité passe aujourd'hui bien plus, on a vraiment le sentiment, par le porno que par l'école ou par les discussions en famille. Tu l'as dit aussi, Roselyne, mais je le rappelle, à 15 ans, 85% des jeunes disent avoir déjà vu des films X. Et la première consultation d'une vidéo porno sur Internet, ce serait en moyenne à l'âge de 12 ans.
C'est fou. On dit que sur les sites Internet, 10% des consultations des sites pornographiques Internet sont le fait d'enfants de moins de 10 ans. Je sais pas si tu vois un peu la catastrophe si en face, il n'y a pas des informations de qualité. Alors vous nous appelez au 3216, sur Twitter, sur Facebook bien sûr, pour raconter ce qui se passe et puis nous donner vos solutions. Et très heureuse de recevoir notre première invitée, Caroline Rébi, co-présidente du planning familial. Bonjour Caroline Rébi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes une praticienne de terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? On a donné quelques chiffres. Est-ce qu'ils sont corroborés dans la vérité sur ce que vous voyez au planning familial?
Et comme il n'y a pas d'éducation à la sexualité, ben on va chercher des solutions et on les trouve où? Sur Internet et dans le porno.
Bien sûr, bien sûr. Mais alors, c'est quoi la législation exacte? Parce que moi, j'avais... Rémi rappelait la loi de 2001, mais tout ça a été rappelé dans la loi de 2013, où on indique que l'éducation à la sexualité, elle commence même dès le primaire. Elle n'est pas seulement le fait de la quatrième et de la troisième, où on cumule les cours d'éducation sexuelle. Ça doit exister tout au long du cursus. Bah, qu'est-ce qui se passe?
À partir de la quatrième, c'est déjà trop tard presque de parler, oui, de sexualité. Parce que on arrive à un moment où on est alerté parce qu'il y a une IVG, par exemple, voilà, ou une main aux fesses, ou une violence sexiste. Et là, c'est déjà trop tard. C'est pour ça que dès le plus jeune âge, c'est le plus important. Et bien sûr, on va pas parler de films porno et d'avortement ou de quoi que ce soit d'autre avec les plus petits. Mais c'est simplement l'égalité, le respect de son corps, et comment on se protège nous et comment on respecte les autres.
Ça, oui, c'est ça.
Dès le plus jeune âge.
Évidemment, il s'agit pas de faire la même éducation sexuelle à un petit ou un préadolescent et ensuite à un adulte, un préadulte confirmé. Rémi.
Nous avons Alain au 32-16. Justement, il est enseignant et il nous appelle du département du Haut-Rhin.
Bonjour Alain.
Bonjour Roselyne. Je suis très content de enfin pouvoir vous avoir parce que ces derniers temps, vous avez quand même parlé beaucoup de l'éducation nationale.
C'est un sujet passionnant.
Voilà, donc notamment, j'ai tenté de vous avoir lorsque vous parliez de cette recrudescence des démissions parce que j'étais juste en route pour aller voir ma hiérarchie pour justement annoncer que je démissionnais. Je disais que c'était le hasard qui voulait que, mais bon, finalement, j'ai pas réussi à...
Eh ben, vous nous l'avez aujourd'hui. Alors, Alain, voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette éducation à la sexualité. Comment ça se passe dans votre établissement? Comment vous l'avez ressenti?
Bon, alors, moi, je suis dans un cas particulier. J'ai officié beaucoup sur des postes spécialisés, donc dans le milieu du handicap, et je suis dans le primaire. Donc, dans ma carrière, je n'ai jamais abordé cela, et à vrai dire, dans le primaire, c'est quelque chose qui, de ce que je connais, ne se fait pas. Moi, si j'appelais, alors je suis tout à fait d'accord qu'on inculque une éducation sexuelle aux élèves, mais à l'heure actuelle, moi je suis un trentenaire, donc je suis de cette génération où on a vécu les débuts d'Internet. Donc on a vu cette recrudescence et cette facilité croissante et qui est aujourd'hui juste hallucinante à l'accès justement à la pornographie et qui pour moi est un des travers à l'heure actuelle, quoi, et qui fait que beaucoup de ces enfants qui sont de plus en plus jeunes devant des écrans se retrouvent devant des films pornographiques, des images pornographiques, et qui justement parasitent leur éducation sexuelle et leur maturité sexuelle à venir, quoi.
Donc Alain, si je vous comprends bien, vous n'imputez pas a priori l'école ou les insuffisances de l'école malgré les déboires que vous y avez rencontrés, mais vous dites que ce sont des problèmes extérieurs à l'école et qu'on en demande trop à l'école, c'est ça que vous voulez dire?
Non, pas qu'on en demande trop, mais en fait, moi, là, ce qui m'a fait un peu tiquer lorsque j'ai entendu le thème du débat et qui m'a fait sauter sur le téléphone, c'est que, donc on fait un constat, on se rend compte que, il y a des carences d'éducation, on se rend compte dans les préadolescents, les adolescents. En parallèle, vous avez justement parlé du fait que beaucoup d'enfants très jeunes se retrouvent devant des films pornographiques, dans les chiffres. Et là, on enclenche sur l'éducation nationale. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il y a quelque chose à faire, mais ça, c'est un cas particulier que parfois je trouve on généralise sur tous les travers. La dernière fois, débat à école publique, école privée, c'était un peu pareil. Je trouve qu'on parle pas assez du rôle de la société, des travers que peuvent amener la société, et donc du coup de la responsabilité accrue des parents. Je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'être parent, je suis parent, mais que la génération de mes parents à moi, mais ça passe justement par une certaine complicité et une responsabilité qui doit amener à parler justement.
J'approuve tout à fait ce que vous dites, Alain. J'ai évoqué dans le préambule aussi le rôle de la famille, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas non plus en famille.
Donc
de ce fait-là, vous avez raison, c'est le rôle de la société qui doit prendre, si on le fait pas en famille, prendre le relais justement de l'absence de dialogue dans les familles. Et le problème, c'est qu'il y a absence aussi à l'école, donc c'est très compliqué. C'est un débat de société, vous avez raison, et on essaie de le mener là, mais on a un peu l'impression que, je vais caricaturer, mais on va en parler, mais que personne ne fait rien Mais en revanche, sur Internet, là, tout est accessible.
Voilà, c'est ça le problème. Alors, je vais laisser Caroline Rébi, qui est vice-présidente du planning familial, co-présidente, pardon, excusez-moi Caroline, co-présidente du planning familial, vous répondre. Parce que souvent, on voit ça aussi, on a des difficultés. Moi-même, j'ai été un membre de conseil d'établissement de collège ou de conseil d'administration de lycée, avec des parents qui ne veulent pas de l'éducation sexuelle parce qu'ils estiment que ça doit se passer dans les familles. Or, ben, dans les familles, il se passe rien, Caroline Rébi.
Bah, ce qui est important quand même, ne pas tout faire reposer sur l'éducation nationale, mais de faire appliquer une loi qui existe, c'est déjà c'est déjà quelque chose, mais de travailler en partenariat. Il n'y a pas que l'éducation nationale, il y a les éducateurs à côté, les animateurs, le médecin, les parents, parce que ça reste des partenaires indispensables. Et quand vous dites les parents, il y en a qui refusent, mais il y en a aussi beaucoup qui en fait des informations qui nous pose des questions. Comment on doit en parler à nos enfants? Est-ce que je dois laisser traîner des préservatifs dans la salle de bain? Comme ça, je sais ce qui va se passer, je pourrais contrôler à peu près. Voilà, et les parents ont vraiment des questions et il faut aussi leur répondre parce qu'ils sont un peu dépourvus.
Oui, c'est ça. Et puis, quelquefois, les enfants n'ont pas envie de s'adresser à leurs parents sur ces sujets-là et les parents n'ont pas envie d'en parler avec les enfants. Et après tout, on va pas leur jeter la pierre.
Alain disait bon que c'est pas que la responsabilité de l'école, et justement nous avons un appel au 3216, celui d'Esmeralda, et qui est d'accord avec Alain, et elle met en cause la responsabilité plus des parents. Esmeralda.
Bonjour Esmeralda.
Et bonjour.
Comme vous avez un joli prénom.
Merci. Bon, bonne année à vous.
Bonne année à vous, Esmeralda.
Bon. Alors, écoutez, moi, je suis ravie. Je voulais justement participer à ce débat parce que c'est très important en tant que parent de s'impliquer dans l'éducation sexuelle de ses enfants. Mmh. Et je pense qu'il faut arrêter d'attendre après l'école pour que nos enfants soient polis, pour que nos enfants sachent la sexualité. Alors qu'après l'école participe un
complète.
Peu, c'est normal. Complète, parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire à nos enfants. Maintenant, moi, j'en ai deux. J'en ai un de 11 ans et un de 13 ans. Bon, bah, à 13 ans, moi, personnellement, je jouais encore à la poupée et j'ai bien conscience que mon garçon, à 13 ans, il a envie d'autre chose. Donc, je suis là
pour... Il a envie de jouer à la poupée, mais d'une autre façon, si je puis dire.
Oui, mais ça reste encore dans le gentiment. Mais voilà, la première chose que moi, je lui ai dit, c'est qu'il fallait qu'on discute sérieusement. Et je pense qu'il a très bien compris de quoi je voulais lui parler. Il m'a dit, oui, mais pas de suite.
Ah voilà, et Rémi.
Oui, je voulais vous poser une question, Caroline Rébi. Vous avez, vous...
Vous restez avec nous, Esmeralda. Hein.
Oui, je reste.
On parlait tout à l'heure du désastre, en tout cas, de ce que produit Internet par rapport à la sexualité, qui renvoie, on tape sur un moteur de recherche sexe, vous tombez que sur des sites pornographiques. Et vous avez de témoignages au planning familial de jeunes qui viennent vous... Enfin, témoigner de ça, de ce désastre que crée
la pornographie sur Internet. Dans les séances d'éducation la sexualité, c'est important de mettre des mots, c'est-à-dire que on a toujours des questions sur la pornographie, et l'important c'est de pouvoir y répondre, mais qu'on soit en tant qu'association ou qu'on soit en tant que professionnel ou parent, c'est-à-dire ils vont pas nous demander, ils vont pas nous dire qu'ils vont voir des choses pour voir des choses. En fait, ils recherchent des réponses à leurs questions. Ils vont nous demander, bah, est-ce que c'est normal que le rapport doive durer un quart d'heure ou 20 minutes? Est-ce que c'est normal de faire l'amour à trois? Est-ce que c'est normal?
Ils vous posent d'une manière totalement innocente, c'est-à-dire que ils voient sur ces vidéos des films où il y a plusieurs partenaires en même temps, et pour eux, bah, ils vous disent c'est normal.
Et souvent, la question sur la normalité, c'est aussi, bah, parce qu'ils n'ont pas fait leur première fois, et c'est, on va rechercher des positions. Est-ce qu'on doit faire deux ou trois positions pour le premier rapport? Bah, c'est des questions très concrètes. Et puis, il y a des choses qu'on trouve pas aussi dans les films porno, c'est-à-dire qu'au final, ils ont des questions très pratico-pratiques. Dans quel sens il faut tourner la langue? Quelle position on fait la première fois pour pas choquer sa partenaire parce qu'elle a peut-être moins envie? C'est quand même une fille. Les filles ont toujours moins envie que les garçons. Voilà. Et il y a toujours des questions comme ça sur les stéréotypes et ou sur la fidélité, et des choses qu'on trouve pas dans
les films pornographiques. Oui, sur la fidélité, je confirme. Oui. Esmeralda, est-ce que vous vous sentez... Bon, bah, vous êtes une maman, vous avez deux enfants, vous nous avez dit de 11 et 13 ans, vous estimez que vous êtes la première éducatrice à la sexualité de vos deux petits. Est-ce que vous vous sentez assez outillée, ayant assez d'informations pour leur parler de contraception ou de maladies sexuellement transmissibles? Est-ce que vous voudriez quand même pas... avoir l'école en appui ou des professionnels?
Ah mais bien sûr, moi je peux répondre à pas mal de questions. Maintenant, il y a des sujets que mes enfants ne voudront pas aborder avec moi parce que je suis leur mère.
Voilà, exactement.
Et c'est vrai que et c'est là qu'intervient un petit peu l'école ou le planning familial. Mais il faut pas croire que c'est à cause de l'école que il y a autant d'IVG. Non, c'est déjà le point de départ, c'est la faute des parents. Mmh. Parce que les parents ont aussi un message à donner à leurs enfants. Après, ils ont les cours, le collège leur donne aussi des autres informations.
Donc c'est un partenariat, Esmeralda, vous plaidez pour un partenariat entre l'école et les parents. Merci Esmeralda, et très bonne année à vous Esmeralda.
À vous aussi. Merci.
Merci beaucoup. Et nous avons...
Frédéric au 3216, il nous appelle de Seine-Saint-Denis.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Roselyne, bonjour Rémi.
Alors,
bonjour Frédéric.
Dites-nous ce qui vous... Dites-nous votre opinion Frédéric.
Je pense qu'il y a une banalisation du sujet. Et que, comme beaucoup de sujets, on n'a pas su s'adapter et on n'a pas su prendre, je dirais, le sujet à bras-le-corps comme peut-être il aurait dû être traité. Aujourd'hui, pour moi, je pense que malheureusement, le mal est déjà fait.
Ouais.
Je pense que malheureusement, il est déjà trop tard. Et quand on me dit, oui, les cours d'éducation sexuelle à l'école... Ça me fait doucement sourire parce que malheureusement, aujourd'hui, des jeunes qui ont 16, 17, 18, 19 ans en connaissent peut-être bien plus que la personne qui va leur distiller ces cours-là sur un point de vue pratique.
Vous voulez dire que quelquefois sont les enfants qui éduqueraient les parents
Frédéric, vous êtes
sur un point de vue pratique.
Vous êtes gérant de discothèque, c'est ça?
Justement.
Ouais.
Et vous voyez les jeunes évoluer sur le terrain, vous voyez ce qui se passe, vous.
Mais malheureusement, Roselyne, dans mes activités professionnelles, je côtoie différents milieux, dont ceux que vous avez notifiés en préambule, indirectement, et on peut se rendre compte, malheureusement, qu'il y a une dédiabolisation du sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous l'avez dit clairement, il n'a jamais été aussi simple de pouvoir avoir accès à du contenu pornographique sur Internet. On peut parler de nombreux sites amateurs dont je tairai les noms qui ont, qui ont fait exploser des sujets et qui ont incité des adolescents à franchir le cap moyennant rémunération. On peut parler de tout ce qui gravite autour de ce phénomène qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. Regardez, prenons un exemple concret, Roselyne, moi j'ai 35 ans, je ne me rappelle même pas avoir eu ou assisté à un seul cours d'éducation sexuelle pendant ma scolarité.
Non, pourtant, non, moi non plus.
80,
hein.
Pourtant, je suis de 80, je ne suis pas né en 1980.
Oui, c'est ça. Rappelez pas mon âge, Frédéric.
Non, mais bon.
Allez-y.
Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tabou, malheureusement. Et moi, je le vois au quotidien. Des gamines qui ont 16, 17, 18 ans, elles viennent chez moi le week-end. Faut constater les choses. Il faut arrêter à un moment donné d'être dupe, il faut arrêter d'être naïf. La problématique, c'est que la dédiabolisation du sujet et la méconnaissance
Oui, oui, Frédéric, non, mais vous avez raison. Vous dressez un constat sociétal. Vous dites, c'est pas la faute des carences de l'école, c'est la faute d'un environnement social et sociétal. Et on peut partager au moins en partie votre diagnostic. Merci Frédéric d'être intervenu au 32-16. Je remercie aussi Alain, Esmeralda et tous ceux qui sont intervenus au 32-16 et que je n'ai pas pu prendre. Mais on va continuer en parler de toute façon avec Caroline Rébi, hein, absolument, et on se retrouve tout de suite sur RMC pour continuer cette passionnante conversation.
RMC 15h-16h 100% Bachelot. RMC jusqu'à 16h.
Le zizi sexuel, mode d'emploi. Hé, Jean-Mi, y a moyen d'attraper la puberté?
Oula, il va falloir lui expliquer que ça ne s'attrape pas dans un courant d'air.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qu'un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpellé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi.
Roselyne Bachelot prend les commandes de 15h à 16h dans 100% Bachelot.
On en revient à cette question cruciale de l'éducation sexuelle, des failles de notre société, peut-être des parents, peut-être de l'école. On a fait un constat, d'ailleurs en demi-teinte, hein, hein, sur les responsabilités des uns et des autres. Maintenant, il nous faut des solutions. On est toujours avec Caroline Rébi, coprésidente du planning familial. On va revenir vers vous, Caroline. Mais d'ores et déjà, nous avons aussi avec nous Hélène Romano, docteur en psychologie, et qui a écrit chez Duno en 2014, École, sexe et vidéo, un livre extrêmement important. Bonjour Hélène Romano.
Bonjour Roselyne.
Alors Hélène, vous qui êtes aussi une praticienne de terrain, à partir du constat que vous dressez, que vous avez dressé dans un livre important, comment est-ce que nous, les parents, à l'école, on doit se comporter dans ces questions d'éducation sexuelle? Quel est le rôle de chacun?
Alors le premier des rôles, c'est de comprendre que la sexualité elle a trois dimensions. La dimension biologique, le corps, l'aspect technique on va dire, la dimension sociale, c'est-à-dire toutes les valeurs éducatives qu'on veut transmettre, mais aussi les repères culturels, les évolutions de la loi de notre société, et puis toute la dimension psychologique, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel. Et ça, la dimension psychologique, elle est du ressort des parents en priorité, parce qu'elle permet à l'enfant de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc l'éducation à la sexualité, il faudrait comprendre qu'elle se tisse dès les premier lien de l'enfant avec ses parents. C'est quelque chose qui se construit dès les premières interactions, dans le respect du corps que le parent va donner à son enfant, dans l'apprentissage des interdits. Il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, apprendre à dire non, et puis apprendre l'interdit après de l'inceste, apprendre le respect de l'autre, et apprendre à l'enfant qu'il peut compter sur l'adulte. Et c'est là-dessus que c'est extrêmement important, parce que ce qu'on constate actuellement sur le terrain des établissements scolaires, au moins dans les hôpitaux, quand il y a des suicides ou des tentatives de suicide d'ados qui ont été hackés sur leur site ou avec des photos qui ont pu transmettre il y a une espèce d'incompréhension de respecter soi-même son corps, son intimité, ce besoin, et c'est Serge Tisseron qu'on parle, d'extimité, de se mettre en pâture sur les écrans. Et les enfants, les adolescents sont très seuls actuellement. En moyenne, les élèves de 6e passent 5 à 6 heures derrière les écrans en jour scolaire, moins de 10 minutes à parler avec leurs parents. Et c'est là-dessus qu'on comprend que éduquer à la sexualité, prévenir les agressions sexuelles ou les dérives, les troubles, la souffrance dans la sexualité des jeunes adultes, qui est une réalité aussi, prévenir ça, c'est aussi très tôt, très précocement, apprendre aux parents, peut-être réapprendre aux parents à parler à leurs enfants, leur permettre de comprendre qu'un écran n'a jamais réassuré son enfant, ne l'a jamais aidé à gérer ses émotions, parce que l'écran ne permet pas de développer l'empathie. Donc avant de parler des positions du Kama Sutra, de toutes ces choses-là qui sont très importantes...
Ouais, vous avez raison de rappeler la dimension émotionnelle et sociale de la sexualité. On n'a peut-être pas, assez parlé jusque-là.
Sur des choses très pratiques, en maternelle, on leur apprend le respect du corps. Regardez les toilettes des maternelles. Aucun député, aucun sénateur n'accepterait de faire ses besoins dans l'état dans lequel sont les toilettes scolaires des maternelles, au vu juste de tout le monde. Donc c'est aussi ça, le respect de la sexualité, respect du corps. L'éducation à la sexualité, ça passe aussi par ça, par des gestes du quotidien, du respect du corps de l'enfant, mais aussi dans l'ergonomie des établissements scolaires. Et vous voyez, ça commence dès la maternelle, pour qu'après, quand ils arrivent au collège, et je rejoins tout à fait ce que disait la collègue du planning familial,
Caroline Rébi,
trop tard de se réveiller à ce moment-là en disant oui, il y a les 3 heures à faire par an, si on n'a pas fait tout ce travail en amont. Parce que ce travail en amont, il permet à l'enfant de comprendre que son corps, c'est ce qu'il y a de plus précieux, qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne force pas, qu'on n'en oblige pas, qu'on est chacun différent, que les images, c'est du montage, c'est pas la réalité, et que si jamais je suis confrontée à des images rudes et dures, qui m'est embêtante, disent souvent les ados, je peux aller voir ou mes parents ou quelqu'un d'autre.
Hélène Romano, vous restez avec nous, hein,
oui.
Hélène, parce qu'on va prendre, Nicolas au 32-16.
Exactement, Nicolas, qui appelle de Seine-Saint-Denis.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Roselyne.
Alors, vous voyez les choses comment, Nicolas? Et vous voudriez que ça se passe comment, l'éducation sexuelle? Je ne sais pas si vous êtes vous-même parent, vous êtes un peu jeune, vous avez 25 ans.
Non, je ne suis pas parent. Par contre, j'ai été enfant. Et effectivement, cette vulgarisation du sexe et la multiplication des moyens de diffusion, moi, je n'y étais pas vraiment confronté. Mais je pense que pour résoudre ce problème, il y a quand même deux approches. D'abord, il y a les parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est sur Internet qu'on en découvre le plus, et pas de la bonne façon. Moi, quand j'étais jeune, bon, c'était les débuts d'Internet, ma mère me donnait une clé Wi-Fi avec laquelle je pouvais avoir Internet. Et elle contrôlait mon temps d'Internet, et elle contrôlait surtout ce que je faisais sur Internet. Et aujourd'hui, c'est encore possible. On peut bloquer les sites
pornographiques,
porno avec des codes parentaux. Ça existe sur la télé, ça existe aussi sur Internet. Donc je vois pas pourquoi est-ce que c'est pas du côté de la famille qu'il faut.
Mais le problème, c'est que Nicolas, vous avez 25 ans, vous êtes jeune, mais il y a encore des plus jeunes que vous aujourd'hui, et je vous assure, moi je suis encore plus vieux que vous, hein, ça, donc ça va. Vous, ouais, vous prenez-le bien, mais aujourd'hui les jeunes sont encore beaucoup plus malins, ils s'échangent des smartphones, ils spreadent des smartphones, vous pouvez en témoigner.
Ah, oui, oui. Alors, Caroline Rébi, ils sont malins, nos gamins, hein, pour contourner, et puisqu'ils voient pas sur notre ordinateur à nous, dans la famille, ils vont chez un copain.
Il le voit chez le cousin, le grand frère, et chez les copains ou chez le frère avec le frère du copain.
Voilà, exactement.
Faut pas croire. Enfin, ce que je veux dire, Nicolas, c'est qu'un contrôle parental installé sur un ordinateur, ça y est, on est à l'abri, on est tranquille. Ça suffit pas, malheureusement.
Ah non, pas du tout. Voilà. Ça suffit pas. Mais bon, je pense que c'est un début. En tout cas, le contrôle que les parents pourraient faire. Et après, je crois qu'il y a une deuxième approche, parce que là, on parlait de la responsabilité de l'école, et moi, je voudrais parler de la responsabilité de l'État en général. C'est-à-dire que attendre de l'école qu'elle éduque nos enfants. Je crois pas que ce soit vraiment possible dans la mesure où elle a surtout d'autres priorités, l'école républicaine. Mais moi, j'aimerais surtout qu'on arrête d'avoir des messages qui sont un peu contradictoires. Il y a un mois, on faisait un débat sur RMC, sur, je sais pas si vous vous souvenez, les campagnes publicitaires contre le sida, pour la prévention pour le sida, en affichant, il y avait des parents d'élèves qui s'injuriaient parce qu'il y avait écrit un coup d'un soir à côté d'une école sur un abri de bus.
Oui, bien sûr, hein,
donc l'État va mettre ça dans la rue, et d'un autre côté, on va demander qu'il y ait qu'on fasse 3 heures d'éducation sexuelle. Donc, si on mettait pas sous le nez de nos enfants qu'un coup d'un soir, c'est quelque chose de normal, peut-être que ce serait pas, dans la continuité,
Nicolas, je vous ai bien compris. Je demandais à Hélène Romano. Hélène, qu'est-ce que ça doit être, l'éducation sexuelle à l'école? Quel rôle, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est le rôle des parents, ce rôle d'écoute, de compréhension, de dialogue, mais qu'est-ce que doit être le rôle de l'école?
D'abord, s'inscrire dans une continuité avec les parents, ça c'est absolument indispensable, que les parents sachent de quoi on parle, puissent être associés à ce qui peut être mis en place, parce que souvent ça va créer des tensions, et du coup les enfants ont l'impression qu'on leur dit pas la même chose entre l'école et la maison. Et on a le droit de pas dire la même chose entre l'école et la maison. L'école va surtout transmettre la dimension biologique,
c'est ça.
La dimension de prévention, c'est aussi important. La dimension de l'éducation dans le respect de l'un de l'autre. Et les enseignants, certaines fois, quand on leur parle d'éducation à la sexualité, ont l'impression qu'ils doivent faire un cours sur les positions du Kama Sutra. C'est pas ça du tout.
C'est pas ça. L'école, c'est la description biologique. Peut-être comment éviter les maladies sexuellement transmissibles et la contraception.
Oui, Roselyne, mais c'est aussi des choses toutes simples. Le respect garçon-fille. Quand un garçon insulte une fille, quand il lui tire son t-shirt pour lui relever en cours de sport pour qu'on voie ses seins naissants pour des petits sixièmes, il doit intervenir, il doit dire stop immédiatement. Ça passe par le respect de l'autre, déjà ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ça constitue aussi l'éducation à la sexualité. L'aspect biologique est très bien assuré par les professeurs de biologie, par des interventions du planning ou d'autres associations sur ce domaine-là. Mais la dimension émotionnelle, la dimension de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça s'est transmis essentiellement par les parents dès le plus jeune âge. Et le problème actuel, c'est qu'on n'a pas les parents tant que ça. Et je rejoins ce que disait le jeune homme juste avant.
Nicolas.
Vous tapez Mère Noël, vous l'achetez Noël, etc. Vous tapez Mère Noël, même avec un contrôle parental, vous allez sur image par inadvertance. Parce qu'il y a tous les enfants qui sont confrontés à des images par inadvertance et eux, ils peuvent être réellement traumatisés. Au bout d'un moment, vous verrez des Mères Noël très courtes vêtues. Ou un autre exemple sur une petite fille de CP qui vient en recherche sur son prénom Clara. En cherchant des images, j'ai tombé sur des photos
d'une fameuse actrice de porno. Et Hélène Romano.
Il faut éduquer véritablement.
Caroline Rébi, comment vous, dans l'association, dans le planning familial, comment vous intervenez à l'école? Quel rôle vous définissez aux côtés des enseignants?
Le mieux, c'est d'intervenir en partenariat. Ça, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, on peut très bien aussi se sentir tout à fait légitime en tant que prof de bio, prof de SVT, pour faire uniquement l'approche biologique, comme on disait, la prévention. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que nous aussi, enfin, l'idée, vraiment, l'objectif du planning et de l'éducation à la sexualité en général, ça doit être de déconstruire ces stéréotypes. C'est pour ça qu'on l'a fait dès le plus jeune âge. La connaissance du corps aussi, c'est vachement important. C'est-à-dire
peut-être d'être un lieu d'écoute aussi. Des enfants qu'il est plus difficile de faire à l'école parce qu'on s'exprime pas dans un cours devant ses autres petits copains.
C'est difficile de parler de sexualité en classe avec tous les copains. Donc déjà, on va réduire le groupe, c'est-à-dire on va faire une demi-classe. Et puis, on va vraiment partir des questions des élèves. C'est important de leur dire, la contraception, il y a la pilule, il y a l'implant, il y a le stérilet qui existe. Si c'est pas leur question, ça va leur passer au-dessus.
Bien sûr.
Donc c'est vraiment, dans un premier temps, répondre à leurs questions. Et puis, je disais, la connaissance du corps, c'est vachement important. Quand on voit qu'aujourd'hui, des femmes qui accouchent ne connaissent pas leur clitoris, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'éducation à la sexualité. Le clitoris, c'est vachement important. La taille du sexe pour les garçons, ça peut être important, mais c'est pas. Enfin, il y a des préoccupations auxquelles il faut répondre sur le moment, sinon ils n'entendent rien d'autre.
De façon très concrète. Alors, on a au 32-16, Rémi ?
Isabelle, qui nous appelle au 32-16, nous appelle du département des Yvelines.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Roselyne, merci pour cette émission, bravo à vous.
Merci Isabelle.
Je voulais intervenir concernant ce sujet qui est un sujet à mon sens très important. J'ai 49 ans, j'ai 3 enfants, alors 18 ans, 22 ans et 24 ans. J'ai des parents formidables, mais qui n'ont jamais vraiment communiqué avec moi quand j'étais enfant. Sur le sexe, sur alors beaucoup de déconnades, beaucoup de comme, mais jamais de communication,
de vraie information, oui.
De vraie information ou de sujets en profondeur. Et à 17 ans, je suis tombée enceinte et je me suis fait avorter. C'est un sujet qui est toujours resté un peu tabou dans la famille. Et aujourd'hui, mes enfants ne le savent pas même. Et en fait, quand j'ai accouché du premier enfant, de ma première fille, je me suis promise une chose, mais vraiment à moi-même, en me disant je communiquerai énormément avec eux, énormément. Ouais, et le fait est que j'ai été, je pense, une maman très maternelle. J'ai aimé les toucher, les caresser. Je pense que la communication a commencé par là, à leur parler, etc. Et je n'ai jamais été pudique avec eux. Donc, ils ont découvert le corps de la femme.
C'est pas parce qu'on est explicite qu'on est impudique, vous savez, Isabelle. Hein.
Mais je pense quand même que la communication passe par là. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les enfants connaissent le corps de la femme et de l'homme. Et en voyant leur papa et leur maman, alors bien sûr pas jusqu'à 15 ans, hein, mais prendre une douche, prendre un bain avec eux, etc. Malgré tout, ils intègrent ça dans leur esprit, hein, et l'ont vu malgré tout. Hein. Et au fil du temps, les questions se posaient, hein, bien évidemment. Je n'ai jamais interdit les enfants de se toucher le sexe la nuit. J'avais une amie qui interdisait à l'époque sa fille de se toucher absolument le sexe pendant la nuit et de mettre une culotte. Enfin, c'était voilà des choses qui me semblaient complètement aberrantes. Hein. Et je les ai jamais empêchées de se toucher, et surtout.
Isabelle, là, vous allez susciter à travers ce que vous nous dites un certain nombre d'interrogations. Moi, je me tourne à la fois vers Hélène Romano et vers Caroline. Dites-nous d'un mot. D'abord vous, Caroline, Caroline Rébi, ce que suscite la façon de faire d'Isabelle.
Je pense que dans un premier temps, le plus important, c'est de répondre aux questions. C'est-à-dire, et si on voit, par exemple, qu'on a un petit, parce qu'autour de 6-7 ans, on peut, les garçons commencent à avoir des érections, ils peuvent se toucher, mais c'est de leur dire, ça relève de ton intimité.
Voilà, c'est ça.
En tant que parent, j'ai pas besoin de voir ça, voilà. Parce qu'entre parents et enfants, c'est pas le rôle de se regarder nos sexes mutuels, mais tu peux être dans ta chambre, tu peux fermer la porte, tu peux être dans ton lit, on recontextualise les choses, en public, ça se fait pas.
On dédramatise, mais de là à exposer. C'est bon.
Hélène Romano,
je rejoins complètement. Éduquer la sexualité, c'est apprendre avant tout les interdits et l'intimité. Donc un enfant ne peut pas parler de tout avec son parent, surtout quand il grandit. C'est très bien dit. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait le planning et qu'il y ait d'autres structures comme les infirmières scolaires ou l'éducation nationale. Le parent ne peut, c'est pas transparent, c'est extrêmement important. La pudeur, l'interdit qui puisse être transmis. Je voulais juste dire une petite chose très rapide. Ouais. Les ados actuellement, c'est du aussi beaucoup sur les émissions de télé-réalité et les émissions de divertissement. Et là-dessus, il faudrait que le ministère soit aussi extrêmement rigoureux. On parlait de la responsabilité de l'État, parce que quand on laisse des émissions, on transmet aux jeunes que la valeur du corps, c'est lié uniquement à la valeur de l'autre, c'est lié uniquement à la valeur de la plastique corporelle. Humilier l'autre, faire des choses assez sadiques, ne pas respecter l'autre dans sa différence sexuelle, faire des blagues sexistes, voire très humiliantes, c'est banalisé et ça fait monter l'audience. On transmet aussi au niveau de l'État un discours très paradoxal aux jeunes. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à revoir actuellement dans des dérives d'émissions multiples.
Et je vois de qui vous voulez parler.
Il n'y en a pas qu'une.
Mais ça participe aussi à l'éducation à la sexualité, parce que les gamins, ils sont à l'école, ils sont à la maison, ils sont derrière la télé. Et derrière la télé, quand c'est ce message-là qui est là, on peut aussi s'alerter. Et là, le ministère ne fait rien. Il faut vraiment se responsabiliser au niveau des politiques.
Merci sur ce sujet passionnant. Merci Caroline Rébi, merci Hélène Romano.
Et tout de suite, c'est vous qui faites l'actu, vous nous dites ce qui vous marque, ce qui vous touche avec Rémi Barré.
RMC, 100% Bachelot.
Moi, je me suis dit, Rosine n'a pas parlé de ça.
RMC.
C'est un problème, en fait, votre positionnement.
Ça m'a fait réagir.
100% Bachelot.
Rosine n'a pas parlé de ça. Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est vous qui faites l'actu.
On n'a pas parlé de ça.
C'est vous qui faites l'actu sur RMC, 100% Bachelot. Comme tous les jours, Manon Bourget est avec moi. Bonjour Manon.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Et donc, vous nous appelez au 3216 pour nous dire ce qui vous fait réagir dans l'actualité du jour. Il y a déjà quelqu'un, Manon.
Et oui, on commence tout de suite avec Maxence. Hein. Tu sais, Maxence, il nous appelle de Dijon.
Non, je ne savais pas, mais c'est maintenant je le sais. Bonjour Maxence.
Bienvenue. Bonjour, bonjour à tous.
Alors, vous voulez nous parler de quoi?
Ben moi j'aimerais revenir sur ce que j'ai entendu, c'est-à-dire le fait qu'on puisse octroyer au chef d'établissement du secondaire le fait de pouvoir recruter les professeurs.
Ouais, c'est un des projets du nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Exactement, j'ai entendu ça ce matin et ça m'a complètement révolté, quoi. Parce que je trouve ça vraiment inadmissible. Parce que pour moi le problème il est pas là, il est pas de choisir les bons ou les mauvais profs. C'est vraiment plus tôt que ça se passe. C'est à la base, c'est sur le mode de sélection des professeurs. On les juge sur un concours et ce concours il juge simplement leur connaissance et pas leurs compétences. Ouais,
il y a une formation après, non?
Il y a plus de formation. Ça c'est pas vrai. C'est pas mis en place.
Théoriquement il y a une formation.
Théoriquement, mais je vois pas comment on peut s'adresser à eux juste avec ce diplôme, quoi. Et ça permettrait, avec une meilleure sélection et une meilleure formation, de retrouver sur le chemin des établissements scolaires et ben des erreurs de parcours et des personnels qui sont pas adaptés à l'enseignement, à se retrouver devant une classe de 30 élèves et à leur transmettre un bagage technique et voilà, quoi.
Est-ce que ce sont pas deux sujets différents? Est-ce qu'il n'y a pas d'un côté, je suis d'accord avec vous sur la formation des professeurs qui est certainement à revoir. En tout cas, c'est ce que nous disent la plupart des enseignants qu'on a déjà eu sur RMC dans différents shows. En discutant avec eux, on se rend bien compte qu'il y avait un problème au niveau de la formation. Bon, il y a ce problème-là. Mais à côté de ça, davantage de liberté pour les dirigeants d'établissements de lycée pour pouvoir choisir leurs enseignants, est-ce que ce ne sont pas deux sujets différents?
Non, parce que pour moi ça va de pair. Alors il y a deux autres problèmes que j'aimerais soulever, c'est que avec ce système-là, on va créer de grosses disparités au niveau des territoires. Quand on voit les vœux que peuvent effectuer les professeurs en fin d'année pour souhaiter aller dans telle ou telle région, bah vous allez regarder, c'est toujours les mêmes régions qui sont les plus réclamées. Donc il y a des régions qui se retrouvent vraiment avec un nombre de professeurs et de demandes qui sont beaucoup plus importantes que le nombre de postes à pourvoir. Et inversement, il y a des régions qui se retrouvent avec personne où on lutte pour essayer de trouver du monde. Et demain, si on réalise ce genre de réforme, eh ben forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben les professeurs vont se diriger vers les grandes villes, vers les établissements bien cotés, de centre-ville. Et puis, ben, qu'est-ce qui va rester aux autres? Eh ben, on va leur permettre simplement d'aller dans les banlieues ou en campagne. Mais qui c'est qui va aller demain postuler pour aller se retrouver dans un collège d'un petit village de 2000 personnes au fin fond de la Côte d'Or? Personne. Et ça va créer des inégalités monstrueuses.
Est-ce qu'elles n'existent pas déjà, ces inégalités?
Eh ben non, moi je pense pas, parce que avec le système actuel, évidemment il y en a quelques-unes, c'est obligatoire ça. Mais le fait qu'on déplace les professeurs de région en région et qu'au début de leur enseignement on leur permette par exemple de rester une année dans leur région avant d'aller ailleurs ou de tout de suite poursuivre leur enseignement, leur formation dans d'autres régions, dans d'autres établissements, notamment parfois en région parisienne où ils vont apprendre le métier sur le terrain avec des cas compliqués à gérer, qui vont être très loin de ce qu'on leur a appris à l'école, parce qu'ils vont se retrouver face à un public qui n'ont jamais eu à gérer, quoi. Et puis le dernier point que j'aimerais soulever, c'est que moi j'ai travaillé 6 ans dans un établissement scolaire, dans un collège. Alors en tant que surveillant, bien sûr, j'ai été recruté par un chef d'établissement à la base qui a pris sa retraite. Et je me suis retrouvé sur les 3 dernières années de ce job avec un nouveau chef d'établissement. Écoutez, je vais vous dire la vérité, un chef d'établissement qui pour moi n'était pas du tout adapté à ce travail-là et qui a recruté à tour de bras des assistants d'éducation qui n'étaient pas faits pour ce boulot. Donc on s'est retrouvé avec une équipe de bras cassés. Et comment voulez-vous que demain ces personnes-là, qui ont été formées par le système de l'éducation nationale, qui sont chefs d'établissement, puissent avoir tous les pouvoirs pour recruter des professeurs? Qu'est-ce qui nous assure que demain, eux, ils vont être capables de recruter les bons, de recruter ceux qui sont adaptés à leur établissement? Ben pour moi, j'en ai aucune certitude.
En tout cas, c'est le modèle qui est en cours en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre à l'heure actuelle. C'est-à-dire que dans l'éducation publique, on a donné beaucoup plus d'autonomie aux dirigeants des établissements scolaires. Ils peuvent choisir leurs enseignants et ils gèrent leur budget comme ils le veulent. Et ils les rémunèrent en fonction de leur budget, mais c'est à eux de gérer. Il y a une vraie autonomie. Bon, alors je sais pas si c'est l'exemple qu'il faut, mais en tout cas là-bas, alors attention, il y en a qui vont crier, mais les écoles sont un peu dirigées comme des entreprises.
Oui, c'est sûr. Mais
au niveau de la performance,
au niveau de la performance, moi je pense que
on peut pas dire que le système scolaire français, enfin tout le monde le dit, on le voit dans tous les résultats, ça fonctionne pas.
Ah ben on est à la rue, mais est-ce que ce serait une meilleure solution? Moi je pense pas.
Je sais pas.
On peut donner plus de pouvoir aux chefs d'établissement en leur permettant de mettre en avant les meilleurs professeurs qu'ils ont et qui travaillent avec eux. Alors en leur permettant de pouvoir octroyer un salaire un peu plus important ou alors un peu plus de points pour pouvoir quitter plus rapidement la région ou rejoindre l'endroit pour lequel ils aimeraient être mutés. Il y a plein de systèmes à trouver, mais ce qu'il faut pas oublier surtout, c'est que au milieu de tout ça, il y a quand même les enfants et les enfants, ils vont se retrouver face à qui, face à quoi? On va créer de gros problèmes, parce que l'enjeu pour ces enseignants-là du secondaire là, collège, lycée, ça va être surtout de pouvoir préparer la meilleure orientation possible pour ces élèves-là, pour que demain ils se retrouvent pas tous à la fac comme ça peut arriver en
exactement.
Ce moment. Et complètement sans aucune débouchée possible, quoi. Ça, c'est vraiment pas normal.
Merci Maxence de nous avoir en tout cas appelé au 3216, Manon.
Et puis Nabil, il nous attend aussi au 3216. Il nous appelle de Villeurbanne dans le Rhône et il veut revenir sur Emmanuel Macron et les travailleurs détachés.
Bonjour Nabil.
Bonjour.
Alors, vous voulez nous parler d'Emmanuel Macron?
Exactement.
Il y a des choses à dire parce qu'il a parlé sur pas mal de choses. Donc c'est quoi ce qui vous fait réagir à vous?
Bah, c'est surtout sur les réformes, son dernier discours sur les réformes en France, comme quoi on n'était pas un pays prêt à les faire.
Les Français détestent les réformes.
Et oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis entièrement d'accord avec lui parce que depuis plusieurs années, maintenant moi ça fait, je suis trentenaire, ça fait une dizaine d'années que je travaille. De toutes les réformes qui ont essayé d'être mises en place pour nous permettre une certaine flexibilité, développer l'emploi, ou c'est bien des réformes sur la santé ou autre, il y a toujours eu des contestations qui ont fait que ces réformes ont été abortées avant même d'être mises en place. Quoi. On n'a jamais rien essayé.
Nabil, est-ce que c'est la faute des Français ou est-ce que c'est la faute de nos dirigeants?
Je pense que c'est la faute essentiellement des Français.
On est un peuple particulier. Chez nous, on peut pas réformer. En France, uniquement.
On a beaucoup d'acquis qu'on veut conserver. Donc certains, je les conçois. Mais voilà, on veut que les choses restent comme ça. La société, elle évolue. Mais nous, on veut pas suivre. Et alors qu'on a tous les pays européens autour de nous pour nous montrer l'exemple, et on n'arrive pas à tirer les meilleures idées de ces pays-là pour nous permettre et de relancer l'économie et de relancer le travail, puisque la grosse question aussi, c'est le chômage derrière tout ça. Donc,
Mais Nabil, est-ce que vous pensez pas que lorsqu'une réforme... Alors attention, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que lorsqu'une réforme est bien préparée, lorsqu'elle est bien présentée, lorsqu'elle est bien expliquée, et lorsque elle est bien appliquée, on fait bien les choses. Est-ce que vous pensez pas que là, est-ce que vous pensez malgré tout que les Français seraient contre?
Je pense que déjà, je pense pas qu'ils seraient contre. Mais je pense que les Français ne laissent même pas le temps à tout ce processus d'avoir lieu. Il suffit juste d'annoncer une idée
pour que les gens se révoltent et ne veulent pas en entendre parler. Et ils font la sourde oreille à tout ce qu'on peut leur proposer. Et derrière, ils sont même pas prêts à essayer, quoi. Il y a eu moult propositions, après plus ou moins viables, hein. Mais il y a plusieurs années, il y a eu le CPE, le contrat de première embauche. Il y a eu pas mal de propositions pour le, ne serait-ce que pour l'emploi. Même sur la, je reviens aussi également à la santé, à l'enseignement, et ça se conduit systématiquement par les grèves. Une des réformes qui me révolte le plus, c'est les réseaux sociaux.
Manon, vous vous posez une question.
Oui, je voulais juste vous lire ce petit message de Greg, hein, qu'on reçoit sur le Direct Studio via l'appli RMC. Il nous dit les Français veulent des réformes, mais nos chers syndicats, eux, n'en veulent surtout pas parce qu'ils ne veulent pas être perdants. Comment vous réagissez à ce petit message de Greg?
Entièrement d'accord.
Donc il y a quand même le rôle, on est d'accord.
C'est une minorité.
Il y a quand même le rôle des syndicats là-dedans.
Ah bah complètement. Et aujourd'hui, c'est eux qui bloquent la machinerie, on va dire. Ça, j'en suis persuadé, et on le voit sur plusieurs domaines.
Dans plusieurs de travail, de toutes les réformes.
Dans plusieurs travails, dans l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, dans la santé, dans l'enseignement, c'est des minorités qui aujourd'hui bloquent le système, bloquent les changements. Et j'en reviens aux régimes spéciaux. Aujourd'hui, on veut rétablir, on dit aux Français qu'il faut faire des efforts et on essaie d'uniformiser le monde du travail. Mmh. Et derrière, on a tous ces systèmes qui nous bloquent. Dès qu'on touche à ces régimes spéciaux, ils nous paralysent.
Donc c'est pas les Français qui veulent pas se réformer, c'est les syndicats.
Aux Français de s'exprimer du coup et de dire qu'ils veulent changer les choses dire aux syndicats
Nabil, ils l'ont fait au mois de mai dernier.
Oui.
Emmanuel Macron a dit qu'il voulait réformer le pays. En ce moment, on parle de la réforme du code du travail. Là, alors pas le contenu dans le détail. Je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, cette réforme du code du travail, il l'avait exposée durant la campagne présidentielle. Il en avait donné les grands axes. Je dis pas qu'on connaissait le détail. D'ailleurs, on le connaît pas encore exactement.
Bien sûr.
Mais bon,
ils l'ont fait en élisant Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je dis pas.
Demain, je vais repeindre le mur en blanc. Vous vous dites d'accord. Et une fois que je commence à me peindre le mur en blanc, vous dites non. Enfin.
Ah mais moi, je tiens pas ce discours. Emmanuel Macron, il a un programme. Aujourd'hui, on l'a élu pour ce programme. Par contre, il dit que c'est difficile de changer les choses en France.
Je comprends ce que vous dites.
Aujourd'hui, je dis juste que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Maintenant, c'est des choses à mettre en place. Il a été élu, il faut le laisser mettre ces choses en place et les éprouver avant d'émettre un avis dessus.
Oui, vous avez raison. C'est ce que vous dites depuis le départ, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Merci de nous avoir appelé en tout cas au 3216, Nabil.
Mais c'est un plaisir. Merci à toute l'équipe en tout cas. C'est toujours un plaisir de vous écouter.
Merci.
Et
vous ne faites pas de réforme, ne changez rien, vous continuez à nous écouter. Hein. Merci Nabil.
J'y compte pas. Merci à vous tous.
Et puis on accueille Nicolas. Nicolas, il a 37 ans et il nous appelle de Rennes.
Bonjour tout le monde.
Il n'y a aucune image d'Épinal là-dedans, hein. On est à Rennes. Hein.
Galette, si je t'aime, j'en mangerai des kilos.
Ça, c'est un réalisateur alban, c'est pas moi, Nicolas, ne m'en veuillez pas.
Ouais, ça, on nous la sort à toutes les sauces, elle-ci. Hein. C'est pas une gloire pour le Stade Rennais, par contre.
Alors, oui, vous voulez nous parler, Nicolas, du Stade Rennais, de foot?
Le foot, on va parler football après la politique et surtout du transfert de Dembélé qui est maintenant pratiquement acté au FC Barcelone.
Voilà, c'est ça. Voilà. Il quitte Dortmund, c'est ça, l'Allemagne?
Il quitte Dortmund, donc l'Allemagne pour le FC Barcelone.
Voilà.
Donc,
il était à Rennes?
Il était à Rennes.
Auparavant.
Il était formé à Rennes.
Voilà.
Et donc moi, je souhaite juste intervenir par rapport à ce que j'entends sur les médias et dans la presse écrite. Où Rennes devrait récupérer un joli pactole aux alentours de 40 millions d'euros. Donc, il faut savoir que Dembélé devient le deuxième plus gros transfert en termes footballistiques. Nous, Rennes, on l'a formé, donc il a joué il y a 2 ans. Il faut savoir la progression que le garçon quand même jouait en CFA 2. À Rennes, on a eu du mal à l'intégrer avec Montagnier et le président Ruello. On a eu du mal à l'intégrer. À lui faire signer son premier contrat pro au Stade Rennais. Il a fait 6 mois au Stade Rennais et il s'est envolé pour Dortmund. Deux ans et demi après, il signe pour 150 millions d'euros à Barcelone. Il faut savoir que j'entends dans toute la presse que Rennes va récupérer une manne financière avoisinant les 40 millions d'euros.
Bah c'est bien, non?
Ce qui est totalement faux, d'accord?
Pourquoi ? Parce que faut savoir que déjà Dortmund, il y a quand ils l'ont acheté à Rennes, ils ont déjà versé les 15 millions. Mmh. Donc actuellement, on devrait toucher normalement 25 millions, mais pas 40 millions, d'accord, parce que les 15 millions ont déjà réinvesti, déjà été réinvestis par le club. Mmh. Donc c'est actuellement, ce qui est déjà une très bonne chose pour un joueur qui a vu que 6 mois.
Ce que j'avais dit, c'est déjà pas mal 25 millions.
Bien sûr, bien sûr. Maintenant 25 000 euros sur un joueur, 25 millions d'euros pour un joueur de 6 mois sur Rennes, c'est une excellente chose. Très bonne chose. Mmh. Maintenant, nous, on attend le mercato termine le 31 août. Oui, on attend justement que ces 15 à 20 millions soient réinvestis dans le Stade Rennais pour l'achat de nouveaux joueurs.
Bah, ça devrait être le cas, non ?
Bah, on ne sait pas. Avec le président Ruelo, on ne sait pas. Déjà, lorsque Dembélé est parti à Dortmund, c'était assez flou le transfert de Dembélé, notamment encore en justice devant le parquet de Rennes, parce que c'est un flou entre l'ensemble des agents. Donc là, c'est vrai qu'avec la vente de Dembélé à Barcelone, on va en savoir un peu plus. Mmh. Maintenant, j'espère que Rennes va pas s'asseoir uniquement sur la saison, et ça va être un bon coup de pied aux fesses, on va dire, d'avoir les 20 à 25 millions d'euros de Dembélé pour justement passer un cap pour le Stade Rennais qu'on n'arrive jamais à passer.
D'accord, Nicolas, merci de nous avoir appelé au 32-16. En tout cas, avertissement.
Merci, c'est gentil.
Avertissement lancé par Nicolas.
Du Stade Rennais. Et puis tu sais, on a des nouveaux dans le studio. On a des petits nouveaux camarades.
Attends, tu veux dire que celui qui est à ma droite, là, c'est un nouveau, je crois.
Non, pas Vincent Moscato.
Non. Si ça, c'est nouveau, alors là.
Celle qui est à gauche.
Mais qui...
La blonde.
Je te présente quelqu'un. Elle s'appelle Maïtena Birabin. Ça te dit quelque chose ?
Ça me dit quelque chose, oui. Parce que souvent on parle rugby. Alors on parle pas de la côte basque, on parle pas des petits qui sont pour les deux. Bien entendu, on parle
dis
du
donc,
top 14. Comment ça va, Maïtena ? Bienvenue.
Mais je vais super bien.
Ça attaque Lenny.
Je te trouve ni petit ni nouveau. Bonjour Rémi, par ailleurs. Bonjour à tous. Oui, ça commence lundi. Vous entendez ? C'est la musique de M comme Maïtena. C'est pas mal, non ?
C'est bien.
Je vais vous prendre tout le week-end. Là. Je vous ai pris la tête. Là, c'est bon. Vous allez vous chanter ça jusqu'à.
Tu te mets au vert là, les deux jours qui arrivent pour attaquer plein pot lundi. Non, ça va.
Est-ce qu'il y a du stress? C'est vrai. Ça, c'est une bonne question. Non, mais voilà.
Du stress. On me met une énorme pression sur les réseaux sociaux à propos du passage d'antenne avec Vincent Moscato.
Mais ils ont raison. C'est pas une pression. C'est un conseil à mon avis.
Mais moi, je vois pas pourquoi. Parce que Vincent est un être élégant et poétique.
Bien sûr.
Il vient du rugby.
Vous connaissez pas du tout en fait.
Si,
mais parce que vous le connaissez mal, c'est vous qui le connaissez mal. Hein,
oui, on fera un passage en tunnel à chaque fois. On parlera un peu de tout parce que je présente, bien entendu, puisque j'arrive derrière toi, je présente.
Attention
mon émission.
La blague, attention. Attention la blague.
C'est bien ce que je disais.
Attention la blague, Vincent.
C'est vous qui êtes tordu. Voilà. J'ai rien dit, puisque j'arrive de suite derrière toi. Top 14, si c'était l'année de Montpellier, ce sera ça. Maïtena aujourd'hui.
Et puis on parlera
de Mayweather, le combat financièrement du siècle, peut-être pas au niveau plus juridique, ce sera peut-être pas le combat du siècle, mais Mayweather, McGregor, craignez-vous l'arnaque, parce qu'on sait très bien que parfois, quand il y a trop d'oseille, parfois ça glisse un peu au niveau de l'honnêteté, au niveau de la boxe. Je crois sincèrement que ce sera un match extraordinaire, on va se régaler, puis...
Attention, un grand retour
de
la pompe à vélo.
La pompe à vélo.
Tout le monde en parle.
La pompe à vélo.
Attends. Alors on aura Bartomeu, le mauvais perdant, Bartoletti qui est quand même une super feignasse. On était habitué à Ibrahimovic qui quand même faisait à peu près 250 mètres par match sur une heure et demie. C'était pas mal. Mais là je crois que Bartoletti est bien parti pour le rattraper avec une moyenne de 190 mètres par match.
Mais quelle patate il a quand même.
Il a la patate, mais quand même.
Non, toi.
Feignassou.
Ah bon. Toi, t'as la patate.
Maïtena, bon week-end. Rendez-vous lundi dès 15h.
Oui, absolument.
Ça va super.
Et Vincent, tout de suite. Au boulot.
Allez, on
mastique.
On y est, bien entendu.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre ? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.